Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Philippe Walter, vous êtes directeur de recherche au CNRS, commissaire d'exposition. Vous dirigez le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale à l'université Pierre et Marie Curie, aujourd'hui installée à Jussieu. Vous êtes couvert de distinctions et de prix internationaux. Vous avez été élu en 2014 au Collège de France, où vous avez été titulaire de la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Vous avez donné 8 leçons consacré aux relations entre la chimie analytique et l'histoire de l'art. Avant d'entrer plus avant dans le contenu de ces cours, nous aimerions savoir comment vous en êtes arrivé là. Que s'est-il passé dans votre vie qui vous a conduit à tenir ensemble la chimie et les œuvres d'art, qui sont enfin deux disciplines ou deux matières ou deux objets d'amour, en général plutôt contradictoires, enfin qui peuvent en tout cas paraître comme tels?
Oui, ça peut paraître comme tel dans notre éducation actuelle, où on est formaté d'une certaine manière rapidement entre les lettres et les sciences. Ça ne l'est pas forcément au quotidien et j'espère que ça le sera de moins en moins également dans l'avenir. Donc j'ai fait je fais aujourd'hui ce type de recherche parce que j'étais passionné, je veux dire comme beaucoup d'enfants qui ont une dizaine, douzaine d'années par l'Égypte ancienne et je rêvais de devenir égyptologue et j'avais plus de facilité en sciences. Donc je me suis orienté vers les sciences pour faire de l'archéologie, pour faire de l'égyptologie. Et je me suis très vite mis à fouiller durant l'été, pendant mes vacances. Et petit à petit, j'ai comme ça appris sur le terrain une certaine archéologie, tout en faisant des études scientifiques de physico-chimie, jusqu'au doctorat, bien entendu, pour essayer ensuite de devenir chercheur.
Vous avez travaillé, je crois, sur les phares en Égypte, n'est-ce pas, Philippe Walter?
Voilà, donc c'était une des premières activités que j'ai eues comme chercheur au CNRS. Donc mon rêve d'enfance, hein, d'une certaine manière, je réussissais à le concrétiser en rentrant au CNRS comme jeune chercheur et en lançant un programme pour essayer de réanalyser, 100 ans après les dernières analyses, les résidus de certains phares découverts dans des tombes de l'Égypte ancienne.
Alors comment les femmes se maquillaient-elles? C'est juste une question très intéressée et presque personnelle pour toutes les auditrices.
Vous ne le feriez peut-être plus de la même manière aujourd'hui, puisque les Égyptiennes, mais aussi les Égyptiens, hein, c'était moins distingué entre les hommes et les femmes, se maquillaient essentiellement avec des composés à base de plomb. Donc ils peuvent toujours nous surprendre dans notre société actuelle où le plomb est banni de tous ses usages quasiment.
Oui. C'était dangereux finalement.
Donc c'était plus ou moins dangereux, ça pouvait l'être si on ne faisait pas attention. Ça, on pourra y revenir juste après. Mais parce qu'ils avaient découvert un pigment extrêmement intéressant qui s'appelle la galène, qui est un pigment noir ou gris à reflet métallique qu'ils pouvaient exploiter, trouver
dans des
gisements. Attendez,
c'est le même matériau qu'on mettait dans les postes à galène?
C'est le même matériau que dans les postes à galène.
Ah bon, formidable ça.
Et c'est un matériau qu'on peut broyer pour en faire une poudre qui a un aspect gris métallique, ou bien si on le broie davantage qui devient toute noire. Et en fait, les Égyptiens ont su utiliser pour se farder les yeux et faire ce magnifique trait autour de l'œil qui prolonge l'œil et qui dure encore, enfin dont l'usage dure encore, y compris de cette galène, aujourd'hui en Afrique du Nord notamment, sous la forme du kaol traditionnel, qui est toujours à base de ce minerai. Et qui est très intéressant parce que ce n'est pas juste un simple pigment noir, c'est un pigment qui va réfléchir aussi la lumière de manière esthétique. Ah. Et là aussi de manière très très pertinente, les anciens Égyptiens n'ont pas transcrit, écrit le nom de ce phare en l'appelant phare noir, mais l'ont appelé avec un nom que l'on pourrait traduire comme « poudre pour rendre l'œil expressif ».
Ah,
vous voyez,
c'est beau.
Chargé de toute une série de notions qui n'étaient pas que colorées.
Mais alors, comment faisait-il juste pour éviter les effets du plomb? Est-ce qu'ils avaient des techniques particulières? Est-ce qu'ils étaient au courant? Enfin, ils devaient connaître les effets secondaires d'un certain nombre de matériaux, quand même.
Forcément, par expérimentation au quotidien. Hein, oui. Ils devaient forcément se rendre compte de certains des problèmes issus de ces composés à base de plomb. Mais aussi, ils ont su les formuler avec d'autres types de produits qu'ils ont synthétisés pour conférer d'autres produits à base de plomb, de nouveau, qu'ils ont synthétisé pour conférer à ces phares des propriétés thérapeutiques et qu'on reconnaît encore dans l'Égypte gréco-romaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des expériences avec des collègues pharmaciens pour essayer de comprendre comment ces composés pouvaient libérer un peu de plomb qui traversait la peau pour intoxiquer la personne. Et on se rend compte en fait que la pénétration à travers la peau du plomb sous cette forme est très très faible. Et donc si on ne se frotte pas les yeux et se lèche les doigts après, là, c'est très toxique si on fait ça, mais si on ne fait pas ça, la toxicité est relativement faible. Et je vous ai dit que ces produits sont toujours utilisés en Afrique du Nord, mais aussi au Moyen-Orient, et des études épidémiologiques ont été faites dans des hôpitaux pour essayer de voir la plombémie des personnes qui se fardaient encore de manière traditionnelle. Elle est un peu forte, mais pas du tout très forte, comparable
pas dangereuse du tout,
à ce qui peut exister en France. Donc après, la notion de danger est très relative selon les périodes.
Alors Philippe Walter, vous écrivez, je cite, « De multiples innovations technologiques servent aujourd'hui à étudier les œuvres d'art à l'aide d'analyses non-invasives, c'est-à-dire sans effet négatif sur les œuvres, et in situ, donc sur les sites historiques ou dans les musées. L'étude de la complexité des matériaux utilisés par les artistes permet non seulement d'apporter les informations sur les pratiques artistiques, mais aussi d'aider à la conservation des œuvres et de contribuer à l'évaluation de leur degré d'authenticité. Donc ça sert à beaucoup de choses. Et vous expliquez que votre enseignement avait pour objet de montrer de quelle manière ces outils d'analyse aident à traduire et à comprendre le geste de l'artiste en termes de propriétés physico-chimiques et de mettre en relation l'évolution des pratiques artistiques de la préhistoire au XXe siècle, c'est un champ vraiment très très large, avec celle des savoirs scientifiques et des inventions dans le domaine des sciences de la matière. Alors, nous allons donc, si vous voulez bien, Philippe Walter, revisiter quelques-uns de ces thèmes, quelques-uns de vos cours. Ça veut dire que votre travail consiste, en partie du moins, à retrouver les matériaux qui étaient utilisés, par exemple, dans la préhistoire. Est-ce que ça veut dire cela ?
Ça veut dire tout à fait ça. Et pour le faire, de développer des instrumentations souvent innovantes, qui n'existent pas dans le commerce. On achète des morceaux, on les assemble pour faire un petit peu l'équivalent du petit robot qui est sur la planète Mars en ce moment, et transférer ces instruments dans une grotte préhistorique pour aller analyser de manière non-invasive et directement sur la paroi la constitution des pigments. Donc non-invasif, on ne prélève plus. Ça change complètement notre recherche. Et c'est possible juste depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un échantillon. Ce n'est pas plus embêtant de faire ces analyses que de regarder l'œuvre.
Ça fonctionne
avec différents types d'instruments, utilisant notamment des rayons X, utilisant des lasers, utilisant différentes technologies qui vont permettre de caractériser les atomes, les molécules, les cristaux sont présents. Et de leur raconter une histoire. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de le replacer. L'homme préhistorique, quand il a voulu réaliser dans la grotte de Lascaux la figure d'une licorne, par exemple, comme ça a été fait, il a été chercher un pigment noir, un pigment orange, un pigment rouge dans la nature, quelque part. Et nous, on peut identifier ce pigment aujourd'hui.
Alors oui, voilà. Quel était ce pigment rouge, ce pigment noir ?
Donc c'était en général à l'époque pour le noir des oxydes de manganèse, pour le rouge et l'orange et le jaune des oxydes de fer. Il allait les chercher et on regarde ces matériaux, on regarde leurs impuretés. Et ensuite on peut même aller parfois retrouver où est-ce qu'il a pu exploiter naturellement ce genre de matière première.
Près des grottes, vous voulez dire ?
En général c'est près des grottes à ces époques-là, donc là on est il y a environ 20 000 ans. Donc en effet ce n'était pas des grandes circulations de matière première qui pouvaient se faire, comme on pourra le retrouver ensuite dans des périodes de notre histoire plus récente. Et donc on peut le trouver, puis après comprendre comment cette matière a été broyée pour en faire un pigment, parfois mélangé à de l'eau, peut-être mélangé à d'autres ingrédients, pour être appliqué sur cette paroi et représenter l'œuvre. Mais au-delà de ça, on arrive aussi aujourd'hui, en analysant l'ensemble des représentations dans une grotte, à faire des liens. C'est-à-dire que cet artiste qui est venu faire cette licorne, il avait beaucoup de peinture dans son godet, dans son pot de peinture. Donc il a fait la licorne, mais à côté, il a pu dessiner un auroch. Et donc on arrive à faire des liens, à montrer que les pigments sont les mêmes d'une figure à l'autre, ou bien sont différents, Et quand on montre que c'est différent, ça veut dire que c'est deux matières premières différentes, donc deux instantanés, finalement,
et
de la création,
probablement deux
qui ne sont pas les mêmes.
Différents.
Le même artiste qui est venu à deux moments de son existence, ou deux artistes qui sont venus en même temps, chacun avec son pot de peinture, ou deux artistes qui sont venus à deux périodes différentes.
Vous
et on peut
travaillé...
rentrer dans cette instantanéité du moment de création.
Vous avez travaillé longtemps sur la grotte de Lascaux. Je crois que c'est une de vos passions, n'est-ce pas ?
Donc c'est une de mes passions. La préhistoire est une de mes passions. J'ai travaillé un bon nombre d'années dans la grotte de Lascaux, il y a relativement longtemps, puisque maintenant il y a eu une série de problèmes de conservation qui ont fait qu'on a limité au maximum l'entrée
des
dans la grotte.
Ouais,
donc
ça,
des champignons, ouais. Des moisissures. Et,
est-ce qu'on va arriver
sont,
à les
bah, apparemment, dans les derniers les commentaires hein. qui ont été faits, la situation est stabilisée. Donc maintenant, on doit pouvoir commencer à réussir à bien les combattre, à revenir dans un état plus normal de cette paroi. Mais donc les études scientifiques, bien entendu, sont un peu mises au second plan pendant cette période où,
où
l'urgence est de protéger les peintures au maximum.
Je voulais aussi savoir ce que vous pouviez dire sur la technique, non seulement des matériaux, mais sur la technique picturale des grottes de Lascaux. Est-ce qu'on peut dire, comme Georges Bataille, que c'était d'immenses artistes ? Je pense qu'on peut le dire en effet, n'est-ce pas ?
Ah, moi, j'adhère complètement au texte de Georges Bataille, d'ailleurs, son ouvrage, où il parle de cette grotte extraordinaire, absolument unique, où on a des représentations qui vont également jouer sur les coloris, qui ne seront pas des simples dessins, mais on va avoir aussi des aplats de teintes qui vont avoir différents types de nuances. Et les fouilles qui ont été faites malheureusement un peu rapidement à la fin des années 1940 de cette grotte ont livré les outils. On a retrouvé les blocs de couleurs, on a retrouvé des sortes de pastels qui avaient été façonnés en mélangeant différents ingrédients. On a retrouvé les palettes, des petites pierres plates avec toute une série de traces de couleurs, des tons violets, rouge vif, rouge plus sombre, orange, jaune, et ainsi de suite, et qui montraient que ces artistes avaient une volonté de représenter un animal. Je ne sais pas pourquoi certains préhistoriens travaillent plus sur le sens de ces figurations. Moi, je suis plus sur la création artistique et sur la façon de faire. Ils avaient cette volonté, mais ils ont su maîtriser toute une série d'ingrédients et d'outils au passage, de façon à avoir une harmonie dans ces représentations. Et quand j'insistais tout à l'heure sur cette chronologie qu'on peut réussir à trouver à l'intérieur d'une grotte, c'est fondamental parce qu'on arrive comme ça à commencer à lever le voile sur les multiples phases de décoration. Donc on est entre la symbolique et la représentation artistique, on est dans une juxtaposition d'images et qui parfois prennent une force. Et c'est une grotte, ou même si on va voir le facsimilé aujourd'hui, le facsimilé est extraordinaire et on ressent une émotion incroyable. Et moi j'ai visité le facsimilé récemment et j'ai reçu une émotion aussi incroyable, même si je connais l'original.
Il y a la même force du mouvement, par exemple, rendu. Parce que c'est une des grandes beautés de la grotte de Lascaux, c'est qu'on voit les chevaux et les animaux en plein élan, en plein mouvement.
En plein mouvement, avec des échelles différentes, avec des juxtapositions de styles et d'aspects aussi, qui nous font regarder certaines très grandes figures, puis après rentrer dans certains détails de ces figures, voire dans des beaucoup plus petites représentations d'animaux qui vont prendre un autre type de sens, et parfois de véritables mises en scène.
Le facsimilé rend ça.
Et le facsimilé, je trouve, rend très bien ça pour la partie qui a été reproduite. Et parfois des scènes qui sont de véritables scènes de mythologie, comme la scène dite du puits, où vous avez cet être humain avec un sceptre et un rhinocéros, et qui est encore un instantané de ses croyances, de cet imaginaire de la préhistoire.
Alors, prenons par exemple un de vos cours, l'atelier comme lieu de transmission des savoirs techniques. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi était fait ce cours ?
De quoi était fait ce cours ? C'est vrai que la question qui peut se poser quand on s'intéresse à la matérialité dans la création artistique est d'essayer de savoir comment se fait l'apprentissage et la transmission des savoirs. Donc en fonction des périodes, là aussi de la préhistoire ou de l'histoire, les choses sont bien entendu plus ou moins simples à décrypter et plus ou moins réelles.
Quand on entend le mot atelier, on entend Italie.
Voilà, donc bien sûr, mon cours était fait sur l'Italie et sur l'Italie autour de l'an 1500 à Florence, puisque c'est là où on peut réfléchir, j'irais peut-être le mieux aujourd'hui, à ce type de problématique. Et autour d'un personnage, bien entendu, clé de toute l'histoire, qui est Léonard de Vinci. Comment Léonard de Vinci, une vingtaine d'années avant l'an 1500, va commencer à utiliser à Florence la peinture à l'huile, et ça nous est raconté notamment par Giorgio Vasari, pour créer le visage d'un ange tellement beau que son maître Verrocchio va arrêter de peindre, lui qui n'utilisait qu'une autre technique, la tempéra. Tempéra, c'est une peinture à l'œuf. Et voyez là, juste dans ce petit texte qui est du XVIe siècle, qui nous décrit cette prouesse esthétique de Léonard de Vinci, on voit que la matérialité est importante, puisque c'est associé à un changement de technique, un changement de liant.
Vous voulez dire que Léonard a inventé ses propres instruments ?
Non, d'autres peintres le faisaient.
Ah oui ?
Il a copié ce qui se faisait ailleurs,
oui.
Il l'a adapté, Ah et oui. Après, il a inventé des choses. Et c'est ça que j'ai regardé beaucoup plus en détail.
Est-ce que vous pouvez nous dire ensuite, de façon un peu plus précise, comment ça s'est passé? Vous avez travaillé notamment sur la Joconde. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on peut dire des choses très singulières, très particulières sur la Joconde?
Donc, j'ai regardé un aspect bien particulier avec une jeune collègue qui faisait sa thèse avec moi, Laurence de Viguerie, qui était l'observation de la manière dont Léonard de Massy a réalisé les ombres sur le visage de Mona Lisa.
Le fameux sfumato.
Donc, ce qu'on décrit par le sfumato qui dépasse juste les ombres, qui est une technique globale qui fait que finalement, aucun trait n'est visible de manière très claire sur les peintures de Léonard de Vinci. Oui. Il n'y a pas de juxtaposition abrupte de couleurs. Tout semble être fondu comme une fumée, d'où ce terme de sfumato, utilisé en histoire de l'art depuis déjà très 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 longtemps. Et nous, on a juste cherché, c'était une recherche déjà très longue et complexe, à développer des outils d'analyse non invasive, on ne prélève pas la Joconde, de façon à analyser le visage et avoir une information sur l'épaisseur et la composition des couches que Léonard de Vinci a su déposer. Et là, on a su démontrer qu'il a déposé des couches très très fines d'une matière picturale particulière qu'on appelle un glacis, qui est une matière qui est très riche en liant, avec très peu de pigments, donc qui n'est pas complètement opaque, qui reste
très
transparente,
difficile à travailler, alors.
Difficile à travailler, qui se dépose en couches uniformes et pour lesquelles il est nécessaire de superposer plusieurs fois le tracé peint de façon à créer des effets d'ombre plus ou moins soutenus. Et on a pu montrer que Léonard de Vinci, donc c'est une technique qui existait déjà par exemple chez les peintres flamands pour réaliser les vêtements et les magnifiques représentations de relief et de saturation des couleurs qu'on a chez Van Eyck ou chez Memling ou chez Van der Weyden. Léonard a appliqué cette pratique pour les visages et sur la Joconde, on a montré qu'il a utilisé des couches peut-être aussi fines que 2 micromètres, 2 millièmes de millimètre. Et il a dû sans doute en déposer de l'ordre de 15. Avec mon imprécision de mesure, c'est peut-être 10, c'est peut-être 20. 15 micro-couches qui, superposées les unes sur les autres, vont créer un effet totalement impalpable de cette peinture, complètement exceptionnelle et complètement unique dans l'histoire. Et là, la transmission des ateliers, d'où vient l'idée? Pourquoi? Comment?
Alors,
on retrouve un pigment également.
D'où vient l'idée? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous avez une hypothèse?
Aujourd'hui, non. Bon. On n'arrive pas encore. Peut-être qu'il s'est inspiré d'œuvres d'Antonello de Messine, qui a porté, dit-on, cette technique des glaciers en Italie. Sur les visages, ce n'est pas encore si clair. Et là, des programmes de recherche sont nécessaires aujourd'hui pour comprendre l'importance d'Antonello de Messine, pour comprendre l'importance de peintres, peut-être vénitiens également, comme Bellini, pour ce développement de cette approche, où Léonard s'est rendu compte que les autres faisaient ça sur les vêtements, et lui s'est dit, je vais le faire sur le visage. Il s'est décalé de la tradition pour faire un autre aspect. C'est une piste qu'il faut démontrer, mais ensuite, et c'est là les transmissions de savoir, comment ses élèves ont fait. Et on a analysé certaines œuvres des élèves de Léonard de Vinci pour se rendre compte qu'ils n'utilisaient pas toujours ces glacis contraignants. Et comment d'autres de son époque qui l'ont rencontré, qui n'étaient pas ses élèves, mais par exemple Raphaël, ont su adapter la méthode de Léonard de Vinci. Donc j'ai essayé d'exposer justement cette manière dont on arrive à décrypter tout ça et arriver avec cette idée que Raphaël a, d'après nos analyses, utilisé la même approche de ces glacis, mais en la simplifiant, pour avoir l'effet de subtilité de ce glacis, mais pas un travail incroyablement long de superposition de couches très fines.
C'est-à-dire que Raphaël travaillait plus vite que Léonard.
Il a produit beaucoup, donc il travaillait forcément plus vite. Et donc, c'était une nécessité pour lui de gagner de l'argent en vendant ses tableaux, alors que Léonard de Vinci a souvent gardé ses œuvres. Et ces 15 couches-là qu'on estimerait pour la réalisation des ombres nous expliquent un autre texte, toujours du XVIe siècle, toujours de Giorgio Vasari, qui raconte à l'époque que Léonard de Vinci a eu besoin de 4 années pour réaliser la Joconde. Donc, vous voyez, ce projet un peu fou nécessite un temps incroyable, qui fait que ce tableau, il a aussi gardé avec lui, et on connaît son histoire jusqu'à aujourd'hui.
Alors, un autre cours, si vous voulez bien, Philippe Voltaire. Contribution de la chimie à l'expertise des œuvres d'art. Mmh. Alors,
idée ancienne, idée nouvelle à la fois.
Vous arrivez à déceler si une œuvre est fausse.
Voilà, donc les faussaires, souvent, se trompent, heureusement. Parfois, ils ne se trompent pas de manière esthétique et ils sont capables d'avoir un imaginaire qui leur permettra de créer une œuvre qui dupera les plus grands spécialistes de l'artiste. par le regard, par l'esthétique, par la représentation. Mais dans la matière, ils peuvent faire certaines erreurs. Et on se rend compte ces dernières années que beaucoup des grandes affaires de
faussaires... C'est de la détection à la Sherlock Holmes que
vous faites. Oui, on est complètement dans les experts de laboratoire de la police judiciaire. Hein, complètement dans le même type de contexte, où en fait on va avoir cette possibilité d'analyser un tableau et de se rendre compte qu'il y a un pigment qui n'était pas présent sur la palette de l'artiste parce qu'il n'avait pas encore été inventé.
Par exemple ?
Donc ça a été fait pour une célèbre affaire récente qui est l'affaire Wolfgang Beltracchi, un faussaire allemand qui a été condamné il y a quelques années et qui s'est fait attraper comme faussaire parce qu'il avait utilisé un pigment blanc contenant un oxyde de titane pour peindre un tableau de Campendonck daté de 1914. Or le pigment base de titane n'apparaît qu'en 1920. Il est synthétisé qu'en 1920. Donc c'est forcément un problème chronologique sur ce tableau. On peut dire on s'est trompé sur la date du tableau de Campendonck, ou alors c'est un faux, et ensuite c'est la police qui a réussi à avoir des aveux et à avoir des explications, et Wolfgang Beltracchi a admis avoir fait une trentaine de faux, sans doute beaucoup plus, et on a encore régulièrement des affaires qui secouent le milieu à cause de ce type de choses. Une telle analyse par des moyens non-invasifs aujourd'hui prend quelques minutes. Donc vous voyez, c'est un enjeu qui devient important de vérifier, notamment pour l'art du XXe siècle, régulièrement, s'il n'y a pas des pigments un peu bizarres.
Alors, prenons encore un autre cours. Ils sont tous tellement passionnants. La perception des œuvres, de la matière à la neuroesthétique. Que cache un titre aussi technique, disons ? Neuroesthétique, c'est quoi la neuroesthétique d'abord ?
Je dirais un projet d'avenir. Hein, un projet d'avenir aussi discuté depuis un certain nombre d'années maintenant avec Jean-Pierre Changeux, donc grand spécialiste de neurosciences et qui a introduit ces termes, notamment de neuroesthétique, et d'essayer de comprendre le rôle de notre cerveau, le rôle cognitif dans la création artistique, à la fois dans la manière dont on va se projeter pour créer l'œuvre si on regarde l'artiste, ou la manière dont on va regarder l'œuvre si on regarde l'œuvre achevée, nous, spectateurs, dans un musée, par exemple. Et donc on peut essayer de réfléchir un petit peu avec quelques données au sens de tout cela aujourd'hui et aux perspectives qui peuvent exister. Au sens que tout cela a, par exemple, juste en regardant certains problèmes de santé qui ont pu exister chez certains peintres, chez Monet, par exemple, atteint d'une cataracte, histoire très connue, et qui va peindre différemment au cours de sa vie, au cours de sa vieillesse, parce qu'il ne verra plus les couleurs de la même manière.
Alors,
donc là, c'est le cerveau qui ne travaillera plus de la bonne manière, parce que l'œil ne lui transmettra pas la bonne information.
Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu ?
Donc, il était atteint d'une maladie classique, avec l'âge, la cataracte, et qui va changer le champ visuel, qui va changer l'appréciation des couleurs.
Qui voile, au fond.
Et qui voile, et qui fait qu'on ne voit plus certaines couleurs correctement, et donc il n'avait plus la perception de ces couleurs comme il fallait. Il le dit dans un de ses textes ou dans un commentaire qui a été fait sur lui, explique que sur sa palette, il avait besoin de quelqu'un pour lui mettre les couleurs dans le bon ordre, les unes à côté des autres. Et par la mémoire visuelle qu'il avait, il savait où était le vert, le rouge, etc. Mais il n'a pas toujours su, et si vous regardez certaines peintures de cet artiste, vous voyez notamment des représentations qui tendent à un moment vers le violet, alors que ça devrait être plus vert, parce qu'il n'avait plus un champ visuel chromatique complet. Et donc, ça crée ce type de difficulté. Donc ça, c'est un des aspects qui est médical. Je ne suis pas du tout médecin.
Oui, bien sûr.
Et après, il y a un deuxième aspect qui est plus chimique, qui est quand même plus le but de mon cours, qui est comment aujourd'hui on voit ces œuvres par rapport à leur altération, par rapport au fait que les couleurs ont parfois été modifiées par le temps, altérées par la lumière,
donc,
par
l'humidité. Donc, ce que nous voyons de Monet n'est pas forcément ce que lui a voulu
voyait
représenter,
et ce que
voir
lui voyait,
et dire. Enfin.
Voilà. Il voulait représenter quelque chose, il ne le voyait pas forcément, et nous, aujourd'hui, on voit encore autre chose. Et essayons de comprendre un petit peu plus cette histoire. Donc vous avez Renoir qui a beaucoup réfléchi à ce problème-là parce qu'il s'est rendu compte de son vivant que ses tableaux changeaient d'aspect.
Alors,
et donc il a
commencé
à vouloir abandonner certaines nouvelles peintures chimiques offertes aux impressionnistes. Et il est passé à des tons utilisant des pigments beaucoup plus traditionnels, les fameuses ocres.
Racontez cette histoire. Au moment où les impressionnistes commencent à peindre, apparaissent également de nouveaux matériaux, c'est ça ?
De nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs. Donc apparaissent déjà le concept de la formulation de la peinture faite en usine ou dans des petites boutiques
industrielles,
qui vont
mettre
les couleurs déjà bien formulées dans des tubes de peinture.
Donc on abandonne l'artisanat.
On ne prépare plus soi-même sa peinture. Voilà. On va l'acheter déjà faite en tube. Donc ça, c'est une première grande évolution. Et en même temps, on découvre au XIXe siècle les éléments chimiques et on découvre la synthèse de molécules colorantes nouvelles. À partir de 1856, la mauveïne, qui va commencer à être le premier colorant, on en inventera plein. Et tous ces colorants ne sont pas stables. Et on mettra du temps à s'en rendre compte. Parce qu'on se rend très vite compte qu'une matière utilisée comme pigment n'est pas stable à la lumière quand elle n'est réellement pas stable. Parce qu'au bout de 15 jours, ça s'est décoloré. Mais quand le processus met 30 ans, il faut un certain temps. Et donc les peintres se sont emparés de ces nouvelles couleurs, plus vives, créant des nouvelles nuances, extrêmement intéressantes pour leur création. Et puis 30 ans plus tard, pour ceux qui ont pu voir ce type de transformation, ils se sont rendus compte de l'aspect éphémère. Donc ça, on l'a vu actuellement par des analyses chimiques, chez Renoir par exemple récemment, par des collègues à Chicago qui ont fait une très jolie étude sur un tableau où une couleur rouge avait complètement disparu.
Et donc Renoir a repris des techniques...
Il ne va pas reprendre les techniques comme d'autres artistes ont voulu revenir à des techniques archaïques, mais il va plutôt essayer de reprendre des pigments qui avaient une grande tradition et qu'on savait être stables depuis... notamment Raphaël et Léonard, puisqu'on peut toujours rester à eux. Et aussi, et c'est son fils Jean, le cinéaste également, qui en parle, que son père a mis au point une méthode où il a commencé à peindre à la fin de sa vie en pensant à ces problèmes-là et à peindre pour l'avenir en augmentant les couleurs, en saturant peut-être plus les couleurs.
En sachant qu'elles vont se déteindre, qu'une partie allait disparaître. Oui. Ah, c'est formidable.
Et donc on voit bien que ces problèmes donc de neuroesthétique, de perception, sont fondamentaux dans la création artistique et qu'on ne peut pas les ignorer. Et pour moi, je voulais faire ce cours à cause de cette liaison fondamentale avec la chimie. La chimie offre aux artistes des possibilités, pour le meilleur et pour le pire selon les moments, et la conservation des œuvres est fondamentale par rapport au discours que l'on peut avoir sur l'une d'entre elles aujourd'hui, quand on la voit.
Vous avez également, Philippe Walter, organisé un séminaire qui avait l'air très, très passionnant. Je crois que vraiment, ça serait, peut-être va-t-il être publié, ça serait intéressant en tout cas. Et vous disiez que ces séminaires devaient présenter des aspects variés de la recherche en chimie, mais aussi les évolutions industrielles, le droit, l'archéologie, la littérature. Bon. Alors, parmi les interventions, certaines m'ont beaucoup intriguée, comme celle, par exemple, qui s'intitule « Picasso et Ripollin, une relation pleine de couleurs ». Picasso a-t-il ripolliné ses tableaux ?
Picasso a ripolliné ses tableaux.
Ah bon ?
Donc juste au sujet de ces séminaires qui accompagnaient le cours, en effet, je les ai voulu très interdisciplinaires avec des personnes très variées pour avoir des points de vue complémentaires. Donc ça ne sera pas publié, mais ils sont accessibles sur le site du Collège de France en vidéo, comme l'ensemble
Absolument.
Des cours. Et donc là, dans ce cas-là, c'est une collègue américaine de l'Art Institute de Chicago qui travaille justement sur ces choix de peintures particulières, et notamment de peintures d'habitation, de peintures pour tout le monde, par certains artistes à certains moments, et notamment Picasso, qui a trouvé que certaines couleurs étaient parfaites pour lui et qu'il n'avait pas besoin d'aller acheter des pigments spécifiques pour artistes. Ça, c'est une partie du scénario. La deuxième partie du scénario, c'est qu'il a aussi utilisé ces pigments à des périodes où il n'avait pas forcément accès aux meilleurs pigments pour artistes, notamment par exemple à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où c'était beaucoup plus facile d'acheter de la peinture d'habitation que d'aller acheter des peintures pour artistes chez des marchands de couleurs, comme par exemple la boutique Sennelier, juste en face du Louvre. Dominique Sennelier a fait une très jolie conférence où il a raconté la façon dont Picasso avait été voir son grand-père, je crois, de façon à lui demander une formulation spéciale d'un pastel gras, ce qui montre que Picasso utilisait du ripollin, mais Picasso allait chez le marchand de couleurs pour demander une formulation spéciale par rapport à son projet artistique.
Formidable.
Donc tout se mélange là aussi. Mais là, on est de nouveau dans ce 20e siècle où les artistes vont pouvoir avoir accès à toutes sortes de matériaux, toujours pareil au 21e siècle, qu'ils vont utiliser en les maîtrisant plus ou moins bien, ce qui nous pose aujourd'hui parfois d'énormes problèmes de conservation, mais vont aussi avoir accès à des chimistes. Monsieur Sennelier, à l'époque, était un ingénieur chimiste de l'école de chimie de Mulhouse, spécialiste en formulation, et qui a passé donc des mois, des années, pour formuler le bon pastel gras pour Picasso et en faire une gamme pour sa boutique. La boutique Adam à Paris a travaillé pour le bleu clin. Pareil, une autre formulation astucieuse, à la demande d'un peintre. Ce n'est pas des choses forcément très compliquées, mais qui nécessitent de maîtriser toutes les propriétés de différents ingrédients. Le broyage des pigments, le bon liant, le bon solvant, la bonne vitesse de séchage, la belle couleur, le bon geste de l'artiste. Pollock ne travaille pas comme Picasso, qui ne travaille pas comme Klimt.
C'est passionnant parce que, en réalité, ces liaisons très profondes et nécessaires entre l'artiste et le chimiste sont absolument méconnues. Or, visiblement, aucun peintre ne peint sans avoir une connaissance et besoin de l'assistance d'un chimiste pour effectivement fabriquer les matériaux dont il a besoin.
On revient au début de l'émission.
Oui.
Les lettres et les arts sont séparés des sciences. Si on réfléchit, et si je vous dis qu'au XIXe siècle, Louis Pasteur était professeur de physique et de chimie à l'École des Beaux-Arts de Paris, on se rend compte qu'il y a quand même eu une évolution incroyable. tous les toutes les écoles des beaux-arts.
Il n'y a plus d'enseignement de...
Il y a un peu d'enseignement, mais pas Louis Pasteur.
Oui,
vous imaginez un prix Nobel de physique ou de chimie aller enseigner aux artistes.
Au plus haut niveau, quoi.
Au plus haut niveau.
Ouais.
Donc je me souviens de notre prix Nobel français Pierre-Gilles de Gênes qui faisait des commentaires formidables sur des techniques anciennes. Par exemple sur l'encre égyptienne. Et pourquoi les Égyptiens l'avaient formulé de cette manière-là avec de la gomme arabique. Ils savaient l'expliquer. Quand vous avez un bon scientifique qui sait expliquer des mécanismes comme ça de la matière, les artistes peuvent s'en inspirer, évoluer et même mieux inventer des nouveaux projets. Donc c'est dommage, je dirais qu'aujourd'hui, cette... séparation un peu trop forte qui existe entre les arts, les lettres et les sciences, crée ces clivages qui font que ce n'est pas une évidence pour tout le monde de penser que la création artistique passe par des matériaux et que ces matériaux, il faut savoir les maîtriser si on veut changer l'aspect de son œuvre. C'est une motivation de beaucoup d'artistes, pas de tous, mais de beaucoup. Et donc il y a ce besoin et ces connivences qui peuvent se développer entre artistes et scientifiques sont une clé de la création à toutes les époques. Et à mon avis, ils vont le redevenir de plus en plus maintenant.
On l'espère en tout cas, puisque ça permettra aussi aux sciences de réintégrer leur place légitime dans la culture générale, en quelque sorte.
Dans la culture générale et une autre place dans la société.
Oui. Alors, on continue avec les séminaires, si vous voulez bien, Philippe Walter, parce que tout ça est très intéressant. Alors, il y a marqué, il y avait une séance. Peut-on connaître l'atelier du peintre antique ? Alors, peut-on connaître, oui, vous nous avez dit pour les Égyptiens. Mais
pour les Égyptiens, je vous ai parlé un peu de la Renaissance. Donc là, j'avais invité mon amie Agnès Rouvray, qui est professeure à l'Université de Nanterre, spécialiste d'archéologie, d'histoire antique et de textes, à essayer d'avoir cette réflexion. C'est très compliqué pour l'Antiquité de définir clairement le statut d'un artiste, le fonctionnement de son atelier, les œuvres qu'il a peintes. La plupart des grands artistes ne sont connus que par des copies romaines ou par
des
textes de commentaires
qui
ont été faits en général bien après la réalisation de ses œuvres. Donc de temps en temps, on a quand même quelques commentaires de première main, je veux dire, de certaines histoires, où par exemple Pline l'Ancien au 1er siècle nous dira « J'ai vu l'œuvre à Rome dans tel endroit ». Donc on sait qu'au moins il avait vu l'œuvre.
Où les statues des dieux étaient peintes.
Toutes les statues en marbre étaient peintes.
Voilà,
toutes les frises des temples étaient peintes. La polychromie était omniprésente.
Oui.
Et tout ça, on en a des commentaires, on en a une certaine vision qui a aussi été recréée au XIXe siècle. Une vision romantique, une vision qui apprécie le blanc du marbre, qui nous choque toujours quand on dit que toutes ces statues étaient peintes. Elles étaient faites en marbre, mais pour être ensuite peintes.
Et on arrive à peindre sur du marbre.
On arrive à peindre sur du marbre. Il faut utiliser les bons liants et ça marche très bien.
C'est alors, quels sont les bons liants ?
Une affaire de technique. Et donc, vous avez, pour peindre sur pierre, il y a différents types de pratiques, mais qui pour l'instant n'ont pas encore été très bien comprises. Et on lance en ce moment des projets de recherche.
Ah, formidable.
Avec un collègue, Philippe Joquet, spécialiste d'archéologie grecque, sur ce sujet-là, pour comprendre un peu ses savoir-faire. Vous pouvez peindre comme un mur, avec une technique dite de la fresque, qui consiste à fabriquer une pierre, finalement, avec de la chaux et du pigment. Et puis après, il y avait d'autres approches qui pouvaient être utilisées. Et on a vu sur certaines petites peintures funéraires qui sont au Louvre que les artistes avaient pu utiliser également de la cire d'abeille pour une technique d'encaustique. Donc il donne une peinture plus brillante, qui juxtaposée à de la fresque, qui va donner une peinture plus douce, va créer des effets extrêmement intéressants. Et le peintre qui vivait en Libye, du côté de Cyrène, il y a au 3e siècle avant notre ère, a juxtaposé les différentes techniques pour faire les cheveux ou le vêtement. Il a utilisé de l'encaustique, alors que pour réaliser les carnations, comme plus tard Giotto, par exemple, ou Michel-Ange, il utilisera de la fresque, parce qu'il y aura une subtilité des couleurs de la chair qui sera bien meilleure. Donc tous ces anciens peintres maîtrisaient tout cela. Il y a 2500 ans au moins, ils maîtrisaient toutes ces pratiques-là, et on s'en rend compte par ces commentaires qui pouvait exister dans l'Antiquité sur les œuvres qui avaient été réalisées par Zeuxis, Parrhasios, Apel et quelques autres.
Thank you.
Autre sujet de séminaire, les techniques de modification des surfaces de sculptures en bronze de la Renaissance. On a l'impression pourtant que le bronze est pérenne.
Donc là, je ne voulais pas qu'on ait que des choses sur la peinture dans mes cours,
oui.
Puisque c'était un cours qui avait une volonté
mais
de
vous-même,
démontrer.
Vous êtes déjà très, enfin vous êtes plutôt spécialisé sur la peinture.
Je suis complètement sur la polychromie et sur la peinture. Et donc là, j'ai convié un collègue qui est le directeur de la recherche et de la restauration du Rijksmuseum à Amsterdam.
Ah, mais oui.
Et qui travaille sur ces bronzes de la Renaissance et sur la
Alors
manière.
Alors qu'est-ce qui leur arrive à ces bronzes de la Renaissance
de les finir. Donc ils vont être fondus et ensuite comment le métal fondu va être traité en surface, martelé pour faire des aspects particuliers, patiné pour avoir différents types de couleurs. Et comment aujourd'hui on a des méthodes scientifiques qui nous permettent de comprendre un peu les problèmes de conservation, mais également les différents outils qui ont pu être utilisés, les différents traitements de surface. C'est des choses qui remontent de nouveau à l'Antiquité, hein. On l'a démontré sur des objets égyptiens.
Au fond, si on
exactement
vous écoute,
les mêmes choses.
Si on vous écoute bien, on a l'impression que de l'Antiquité, enfin des hommes de Lascaux finalement, jusqu'au XIXe siècle, les choses n'ont pas bougé tellement. Elles se sont différenciées, les mélanges ont été faits de telle ou telle manière, etc. Mais au fond, les procédures étaient les mêmes, Philippe Walter.
Les projets artistiques étaient semblables. C'était des projets de réalisation, en général, la plus fidèle possible par rapport à la nature.
C'est ça.
De la représentation d'une personne, d'un paysage, etc. Donc c'était vraiment ce projet mimétique, Greg parlait de mimésis pour ça, ce projet mimétique de la nature avec la sensibilité de l'artiste qui prédominait à la création. Et pour ça, ils avaient une série d'outils à leur disposition. Donc ils voulaient faire un bronze comme l'Aurige de Delphes, par exemple, cette magnifique sculpture en bronze. Ils voulaient représenter la chair un peu différemment du vêtement. Ils allaient faire deux alliages différents. Et comme ça, tout de suite, la polychromie allait marquer la différence entre les deux. Un peintre voulait représenter un personnage, il allait utiliser des pigments, donc il en avait peut-être une dizaine à sa disposition. Léonard de Vinci en aura peut-être une quinzaine à sa disposition. À la fin du XVIIIe siècle, on aura peut-être une vingtaine à la disposition de l'artiste, c'est tout. C'est au XIXe siècle que les choses sont devenues beaucoup plus complexes, parce qu'on est passé de 10, 15, 20 à plusieurs centaines, si on voulait, avec toutes les variantes de matière qui pouvaient exister. Donc les projets artistiques, du point de vue matériel, hein, ont évolué doucement, avec des matériaux éprouvés et sagement utilisés. Et c'est pour ça que moi, j'aime faire cette continuité des savoirs et de ces transmissions de savoirs, parce qu'à mon avis, c'est une vraie piste. Et quand on réfléchit à ce que je vous disais sur les glacis de Léonard de Vinci, la manière de pouvoir les préparer, ça rappelle des textes qu'on peut lire chez des auteurs romains ou des auteurs grecs, Pline l'Ancien de nouveau. Et puis en même temps, ça nous rappelle que l'imprimerie vient d'arriver et que Léonard de Vinci ne lisait pas le grec et le latin, mais avait accès aux premiers livres traduits en italien et imprimés en Italie à la même époque. Et que cette transmission des savoirs qui pouvait exister dans l'atelier existait aussi à travers les âges. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup travaillé personnellement sur l'Antiquité. Et c'est à partir de mes travaux sur l'Antiquité que j'ai eu envie de voir ce qui se passait à la Renaissance, tellement je ressentais une facilité de sauter d'un domaine à l'autre. Même si, bien entendu, artistiquement, les choses sont très différentes.
Est-ce qu'avec vos recherches, on va découvrir des couleurs nouvelles? Est-ce que ça a déjà lieu?
De temps en temps, on se rend compte qu'à un moment donné de l'histoire, un groupe d'artistes ou d'artisans a utilisé un pigment un peu inhabituel.
Aujourd'hui,
parce qu'il y avait
par
un
exemple
accès. Donc ça, moi, j'avais trouvé à Alexandrie, à l'époque de la grande Alexandrie d'Alexandre, et les tombes des mercenaires d'Alexandre qui avaient été... Enfin, les tombes, les stèles funéraires des mercenaires d'Alexandre qui avaient été décorées avec des pigments rares qu'on ne connaissait plus après, par la suite. Mais là, il faut imaginer peut-être des toutes petites quantités de pigments très vifs, venant peut-être d'Iran, parce qu'on sait qu'il y en a dans cette région-là, qui ont été amenés à Alexandrie.
Des plantes,
des pigments minéraux, là.
Des pigments minéraux,
amenés à Alexandrie, plaque tournante du commerce à l'époque, hein, avec riches mercenaires d'Alexandre, qui étaient prêts à acheter ces matières peut-être à un prix incroyable, et qui ont fait un micro-phénomène dans l'histoire, qui font que ces pigments, qui ont des noms que vous ne connaissez pas, moi que je ne connaissais pas avant, comme la mimétite et la vanadinite, se sont retrouvés sur la palette de ces artistes. De manière intéressante, ces pigments ont viré au cours du temps. Le bel orange est devenu marron, le beau jaune est devenu brun, jaune-brun, et donc, en fait, ce n'était pas des si bons pigments que ça. Donc après, peut-être que le temps aussi a très vite montré qu'il fallait les abandonner, comme certaines des couleurs dont je vous parlais des impressionnistes du 19e.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, 2014, est-ce qu'on découvre des couleurs nouvelles? Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'on invente?
Est-ce qu'on en invente?
Bien sûr,
oui.
Tout le temps. C'est plus que facile de fabriquer des nouveaux pigments. Maintenant, pour quoi faire? Pour quel projet artistique?
C'est ça
la question.
Ouais.
On a à notre disposition une myriade de constituants possibles. Donc aujourd'hui, on a en plus des nouveaux concepts qu'on maîtrise de mieux en mieux, comme des couleurs physiques, les couleurs des ailes d'un papillon, par exemple. C'est tout à fait spécifique. Oui. C'est des couleurs qui sont issues de l'interaction entre la lumière et une structure très particulière à l'échelle des nanomètres de la matière de l'aile du papillon. Maintenant, on sait fabriquer ça sous forme d'un pigment. Des artistes vont s'en emparer. L'industrie, bien entendu, va utiliser ce genre de choses. Donc, on arrive à des nouveaux concepts. On parle beaucoup de nanomatériaux aujourd'hui.
Bien sûr,
on peut inventer des nouveaux matériaux également de cette manière-là. On peut avoir toute une série de nouvelles possibilités. Mais toujours, pour quel projet artistique, si on s'intéresse à l'art? Il faut qu'un artiste en ait envie et un besoin. Et à ce moment-là, il trouvera des solutions.
Philippe Voltaire, vous avez été l'un des commissaires des deux expositions sur l'histoire de la beauté au musée égyptien du Caire en 2002 et au musée national du Moyen-Âge à Cluny, donc à Paris, en 2009. Ça s'appelait « Le bain et le miroir, soins du corps et cosmétiques de l'Antiquité à la Renaissance ». Est-ce que dans le champ des cosmétiques, on constate un peu la même chose que dans le champ de la peinture et au fond des couleurs? Est-ce qu'il y aurait une continuité, disons, entre disons, la préhistoire, enfin l'histoire la plus ancienne qu'on puisse connaître sur ce terrain, et au fond le fait que ça ait basculé d'une certaine manière assez récemment, au 19e siècle par exemple?
C'est un peu plus compliqué dans la mesure où le maquillage du visage, on parlait de l'Égypte ancienne tout à l'heure, ce trait noir autour de l'œil était fait pour rendre l'œil expressif et fait pour soigner. Mais quand on va commencer à arriver à l'époque grecque et surtout à l'époque chrétienne, les penseurs de l'Église vont nier l'intérêt de ce maquillage, les philosophes grecs déjà. Et le maquillage deviendra une tromperie. On va se maquiller pour paraître plus beau qu'on ne l'est réellement. Et donc un aspect philosophique va prendre le dessus. Donc les recherches sur les matériaux ne seront plus les mêmes et la façon de se maquiller ne sera plus du tout pareille.
Donc il y a une
Il faudra attendre le
XXe
siècle pour qu'on redonne au maquillage des propriétés de soins de la peau, de protection par rapport aux ultraviolets, pour pas prendre et d'anti-rides, de possibilités de rajouter toute une série de propriétés à ce maquillage. Donc on est passé d'un outil qui soignait les yeux et qui servait à séduire l'autre, homme ou femme. Se maquiller et se soigner les yeux, c'était logique, à quelque chose qui va devenir critiqué et utilisé avec abus à certaines périodes tromper, pour séduire, et avec des connotations très négatives, au XXe siècle, des substances dotées de propriétés de nouveau très intéressantes.
Donc l'évolution n'est pas parallèle du tout.
Pas parallèle du tout, non. Par contre, au niveau des pigments, elle est parallèle, elle est identique. Vous avez les mêmes pigments pour peindre un visage sur une peinture ou pour maquiller le visage d'une personne vivante. Ce sont les mêmes matières.
Quelles matières alors?
Donc on a un pigment blanc de nouveau à base de plomb, qui est le blanc de plomb, le grand pigment de toute la
l'histoire
de la peinture.
Quand j'entends le mot plomb,
c'est un pigment qui est très faiblement soluble dans l'eau. Donc si on ne l'avale pas, il est très, je ne vais pas dire qu'il n'est pas dangereux, il est très peu dangereux. Donc ce n'est pas dramatique de se maquiller. Pourtant, il pouvait créer des irritations. On a toute une série de textes.
Donc les gens se mettaient une crème
des
à base.
Voilà, les textes satiriques nous racontent même qu'ils se fardaient le visage entièrement de ce blanc de plomb et qu'ils devenaient semblables à des cadavres et qu'heureusement, ils avaient un peu de rouge à se mettre sur les joues. Est-ce que ce commentaire est réel ou est-ce qu'il n'est pas un peu abusif?
On a l'impression que c'était comme ça un peu à la cour de Louis XIV, par exemple.
On est dans les mêmes produits, on est dans les mêmes traditions.
Le visage blanc et un peu
Japon,
de rouge.
Et au Japon. On est dans les mêmes traditions également. Donc on a cette tradition très forte et de la beauté d'un visage qui va être très clair. Pour une femme en particulier, pas forcément pour un homme. Là aussi, chaque période a ses spécificités et ses codes finalement de représentation. Donc le blanc de plomb est un pigment, puis après on a des oxydes de fer, on a ce qu'on appelle des pigments laqués, qui sont des pigments sur lesquels on fixe des colorants issus de plantes ou de petits animaux, comme la cochenille qui donne un magnifique petit rouge carmin, une sorte de petit insecte parasite du cactus qui ressemble à une petite coccinelle et qui a ce colorant. Ou la garance qui est une plante et qui a des racines qui fournit aussi un très beau colorant. On le fixe sur un pigment, on l'utilise en maquillage sans problème, on l'utilise en
peinture.
Sur
les joues, sur les lèvres.
Sur les joues, sur les lèvres. Après, on a même utilisé à certains moments ce qu'on appelle du cinabre ou du vermillon, qui est un très beau rouge, mais à base de mercure.
Ah,
donc là, dans la toxicité, on a encore franchi un cap supplémentaire.
Ah oui, ça devait être très dangereux.
Dangereux toujours par ingestion, application sur la peau. Notre peau est quand même incroyablement efficace pour nous protéger de l'environnement. Donc voilà, il faut faire attention à ce que l'on fait. Mais la peau permettait de faire une barrière qui a fait que pendant une période de moins de 1000 ans, les gens ont utilisé ces substances sans s'en préoccuper davantage.
Est-ce que les critères de beauté étaient aussi variables qu'aujourd'hui ?
C'est difficile comme question. Les critères de la beauté ne sont pas du tout forcément constants au cours du temps. Et qu'est-ce qu'ils signifieraient réellement ? Donc, est-ce que la Joconde est si belle ? Est-ce qu'elle est belle par la forme de son visage, par la couleur de sa carnation, par son sourire ou son regard ? On peut se poser cette question.
Vu récemment la Dame à l'Hermine à Cracovie. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est au fond, quand on le voit, on a l'impression qu'il vibre et qu'il vit. Il a une espèce de respiration extraordinaire, ce qui fait qu'évidemment, aucune reproduction ne peut rendre compte de cette vibration.
De cette vibration. Et est-ce que c'est un critère de beauté là aussi ? Ben voilà, bon, c'est
une
question qui est compliquée.
En tout cas, c'est un critère d'éblouissement.
C'est un critère d'éblouissement, oui. Moi, j'ai malheureusement toujours pas eu l'occasion d'aller à Cracovie. Mais je vais avoir un jour une occasion, c'est pas possible. Mais si vous voulez, après, on a aussi des personnages qui vont prendre une place comme ces critères de la beauté. Vous savez, dans l'Antiquité, le modèle des peintres ou des sculpteurs, certains grands noms, comme Phryné, ont été très commentés, comme la plus belle femme possible. Campaspe aussi, la plus belle femme possible de l'époque. Donc on a des noms comme ça qui vont nous donner. La question que vous me posez est plus liée à la couleur, hein, et donc quel est un critère de beauté de couleur. La peau très claire a très souvent été chez les femmes un critère de beauté dans toute l'Antiquité, jusqu'aux périodes très récentes. La notion de peau bronzée comme critère de beauté est une invention récente. Autrefois, il fallait une peau
ça
claire.
Ça revient maintenant, le blanc d'ailleurs.
Et le blanc,
la pâleur de la peau redevient très à la mode.
Et pour les hommes, c'était le contraire. Notamment en Égypte ancienne, vous avez toujours ces représentations sur les tombes, qui sont une codification aussi, hein, codification qui tient à des études de genre, tout autant qu'à à de la beauté. L'homme a une peau très sombre, très bronzée, très marron, la femme a une peau très claire. Et les deux, l'un à côté de l'autre. La femme se protège du soleil et ne travaille pas dehors. Elle reste dans sa maison. Donc on a toute une codification derrière, une symbolique sociale qui peut nous plaire ou nous déplaire selon la perspective que l'on prend.
Philippe Walter, vous avez écrit un ouvrage important de vulgarisation en 2013. Ça s'appelle « L'archimie, enquête dans le laboratoire des artistes ». Est-ce que ce livre apporte des choses tout à fait différentes du cours ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ?
Oui, c'est pas le même projet, c'est pas du tout le même contexte. C'est un livre que j'ai écrit avec un collègue journaliste, François Cardinali, dans l'idée de raconter en quelques chapitres mes 25 premières années de recherche, où j'ai travaillé sur la préhistoire, sur l'Antiquité, sur la Renaissance, et les différentes perspectives qui peuvent en découler. Très différentes de ces cours cette année au Collège de France, qui visaient à raconter, c'est le but du Collège de France, la recherche en train de se faire, où j'ai pris des exemples, les miens, mais ceux d'autres collègues, avec des travaux publiés ces 2-3 dernières années. Donc vraiment la recherche est en train de se faire. Dans l'autre cas, c'était mes recherches à moi depuis 25 ans. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même genre d'histoire.
Alors, dites-moi un peu. Donc vous avez travaillé sur la préhistoire, sur la Renaissance, mais de quoi est fait ce livre ?
Donc d'une série d'exemples, d'expériences personnelles, parfois racontant pourquoi finalement cette expérience avait été faite et quel a été le contact qui a pu exister avec telle ou telle période de l'histoire, telle que je l'ai eue. Et puis la façon dont on peut essayer de raconter de manière très interdisciplinaire et accessible pour un grand public, ce qui était aussi le but de ce livre, la manière dont les artistes à toutes ces périodes se sont préoccupés de matière et la manière dont on arrive à décoder cette matière. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a discuté ensemble depuis le début de notre entretien. Donc ce livre est fait pour qu'un artiste puisse découvrir un peu plus l'importance de ces matériaux et se mettre dans une perspective historique, ou qu'un chimiste puisse comprendre comment ces matériaux ont pu être utilisés. Donc c'est un livre vraiment visant
deux
lectorats complètement différents.
Vous avez montré comment un artiste est quelque part nécessairement un chimiste
C'était affirmé à toutes les époques jusqu'au 19e siècle. Les artistes ont comme compagnon indispensable la chimie, comme compagne indispensable la chimie de tout temps, sauf de temps en temps quand ils doivent faire appel à des secrets qui peuvent exister, parce qu'il y avait toujours, à toutes les périodes de l'histoire, des substances un peu magiques qui étaient produites très loin, que personne ne maîtrisait trop et qu'on vendait très bien. Donc très cher, et aussi très cher. Donc on a ces petites notions-là qui existent à toutes les époques. Et si vous regardez certaines peintures, par exemple des représentations, là aussi très symboliques, dans la peinture qui sont des représentations de Saint-Luc en train de peindre la Vierge Marie, vous avez toujours une représentation de ce peintre, la Vierge, le tableau, la palette, et puis derrière, vous avez en général un homme qui est en train de broyer les pigments et de fabriquer la peinture, et qui montre en fait que quand un peintre veut se représenter dans son atelier, il a besoin de ce préparateur, donc qui est juste un artisan, oui. qui broie les pigments, qui les mélange avec lui, qui formule, c'est de la chimie ça. Donc on peut dire que c'est la cuisine. Mais il y a toute une série de concepts derrière qui sont très importants et qu'il maîtrisait dans l'atelier même.
Justement à ce sujet, on sait que par exemple qu'à la Renaissance, il y avait des peintres spécialisés qui passaient d'atelier en atelier pour représenter par exemple les instruments de musique. Est-ce qu'on s'aperçoit des grandes différences de technique?
Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais rien lu sur une étude technique de ces phénomènes-là.
Parce que ça existe.
Parce que là, c'est une façon de représenter des détails. Je ne sais pas. Ça serait formidable à étudier.
Oui,
mais je
ne
peux pas vous répondre. J'en sais rien du tout aujourd'hui.
Quelle est, de toute votre expérience qui est si belle et si large, celle qui vous a le plus ému et le plus passionné, Philippe Walter?
C'est difficile de mélanger des sujets aussi variés que la grotte de Lascaux, une peinture pas très esthétique d'une stèle funéraire d'un mercenaire d'Alexandrie, ou bien un pigment laqué qui va être synthétisé selon une recette écrite dans un manuscrit d'il y a 2000 ans. Les trois sont complètement exceptionnels à des niveaux différents. Il y a des émotions parfois esthétiques que l'on peut ressentir de manière totalement évidente, et c'est le rêve de tout le monde, être tranquille dans la grotte de Lascaux pour travailler ou face à la Joconde pour soi tout seul, avec une vraie lumière pour la regarder, c'est un privilège incroyable. Mais en même temps, à chaque fois, je suis dans une démarche scientifique et technique qui a besoin de temps, et j'ai pas le temps, et donc je suis dans une concentration qui ne me permet pas d'éprouver réellement ce moment avec tout le bonheur que je devrais avoir.
C'est
le côté un peu délicat.
C'est émouvoir de vous retrouver en tête à tête avec ce chef-d'œuvre qu'est la Joconde, par exemple.
Ça m'a stressé plus qu'ému.
Ah oui.
Par les enjeux, par les difficultés d'accès, par le contexte dans lequel on pouvait travailler. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué comme notion. Et je veux dire, c'est certains de mes résultats...
Ça doit faire un peu peur, en effet.
Ça fait peur. Et donc c'est des résultats dont je suis particulièrement fier, parce qu'ils apportent des données, une façon de regarder les œuvres d'art différentes. Donc la notion de pot de peinture, là, dont je vous parlais, pour ces successions de représentations dans une grotte, c'est une notion qui a été mise en place il y a à peu près 25 ans dans un article que j'avais fait. Et j'en suis très fier de cette notion parce que c'est la façon de faire rentrer la matérialité dans un raisonnement chronologique de création d'une œuvre. Et après, ces recettes de glacis, Léonard de Vinci et la manière de superposer les couches, bien entendu, c'est formidable. Et je le vois bien et ça rentre dans des livres de cours ensuite et ainsi de suite. Donc ça fait toujours très plaisir ce genre de choses. Mais j'ai du mal à trouver un moment particulier. J'ai beaucoup de chance, je veux dire, d'avoir eu beaucoup de grandes émotions de recherche et d'avoir encore, j'espère dans l'avenir, beaucoup de grandes émotions de recherche.
En ce moment, au moment où nous parlons, Philippe Walter, sur quoi travaillez-vous?
Donc, il y a beaucoup de sujets. Là, j'ai un grand programme de recherche dont je m'occupe sur la polychromie. Donc, on a appelé l'aventure polychrome.
Alors, vous travaillez à partir de quel...
interdisciplinaire, avec des acteurs très variés.
Quelle époque?
Les deux prochaines années, que trois époques.
Ah.
Donc, celle de Lascaux.
Oui.
Vous allez retrouver des choses. Celle de l'Antiquité grecque. Et notamment en allant travailler, grec et hellénistique, en allant travailler notamment à Alexandrie, à Delphes, et puis le 19e siècle anglais. Donc trois époques différentes qui nous permettent de mélanger des regards, archéologie et chimie, histoire de l'art, archéologie et chimie, ou bien littérature et chimie, de façon à apporter des données différentes. Donc cette idée d'aventure polychrome, on peut le faire à toutes les périodes. Mais le but, ce que j'ai avec mes collègues, c'est de vraiment essayer de développer un programme interdisciplinaire où on échange au maximum et où cette séparation des lettres, des sciences et des arts
est
complètement abolie. Et dans un même laboratoire, on peut tous travailler ensemble et abolir ce problème-là et concevoir autrement notre recherche. Chacun avec sa culture, chacun avec ses pratiques, chacun avec ses habitudes. On ne travaille pas tous de la même manière, mais essayer de construire cette expérience. Et donc c'est un grand programme rassemblant plusieurs laboratoires au sein du groupement d'universités qu'on appelle Sorbonne Université pour les deux prochaines années. Et j'espère qu'on aura dans 2 ans comme ça des très beaux nouveaux exemples. Et bien entendu, après, on continuera sur d'autres périodes, les mêmes, et puis d'autres, si le projet fonctionne bien.
Et un livre en cours, peut-être ?
Donc le livre publiant le texte de ma leçon inaugurale au Collège de France vient tout juste de sortir.
On écoute demain votre leçon inaugurale, de toute façon.
Et donc, je n'ai pas pour l'instant d'autres livres en cours, parce que je suis quand même un chercheur d'abord devant publier des publications scientifiques dans des revues spécialisées. Et pas que des livres adressés au public.
Quelle chance vous avez, Philippe Walter. C'est un métier enthousiasmant. En tout cas, quand on vous en entend parler. Mais aussi, on a l'impression que vous êtes un homme très heureux de faire ce que vous faites.
Oui.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Philippe Walter, titulaire de la chaire d'innovation technologique, Liliane Bettencourt. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour entendre la leçon inaugurale donnée par Philippe Walter. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.